de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Tout juste inauguré, Carbon Exchange gagne 32,01 milliards de roupies. Président Joko Widodo inaugurera le Haut Conseil saoudien indonésien lors de sa visite en Arabie saoudite en octobre. Gouvernement collabore avec JBIC Japon pour développer des sources d'énergie renouvelables. Athlète indonésien de Wushu remporte l'or aux Jeux asiatiques 2023. L'économie verte est une nouvelle source de croissance durable. Le ministère de l'Éducation et de la Culture a déclaré que le bulletin de l'éducation encourage une répartition équitable de l'éducation en République d'Indonésie. Le ministre du PUPR propose le projet de développement IKN aux investisseurs chinois. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles incomplètes. Le président indonésien Joko Widodo a inauguré la première bourse de carbone en Indonésie, ou IDX Carbon, mardi matin 26 septembre 2023. Lors de l'ouverture des marchés, la bourse indonésienne BEI, en tant qu'organisateur de la bourse du carbone, a reçu 13 transactions. Citant GNFI, 459 914 tonnes d'équivalent CO2 ont été négociées avec succès à 9h30 heure locale. Le prix moyen a été enregistré à 69 600 roupies par unité de carbone. Le total de transactions carbone à l'ouverture des échanges a atteint 32,01 milliards de roupies et continue de croître. Selon les enregistrements, d'IDX Carbon, à 11h30 heure locale, le commerce du carbone avait donné lieu à 27 transactions avec un volume de 459 953 tonnes d'équivalent CO2. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Royaume d'Arabie saoudite en Indonésie, Faisal bin Abdullah Al-Modi, a déclaré que le président indonésien Joko Widodo devrait signer l'inauguration du Haut Conseil saoudien indonésien. Lors de la commémoration de la 93e journée nationale de l'Arabie saoudite qui s'est tenue récemment à Jakarta, l'ambassadeur Faisal bin Abdullah Al-Amoudi a déclaré que la cérémonie de signature serait présidée directement par le prince héritier Mohammed bin Salman. Lors de la visite du président Joko Widodo en Arabie saoudite le 19 jusqu'à 20 octobre. Selon le plan, le président de la République d'Indonésie, M. Joko Widodo, se rendra en Arabie saoudite du 19 au 20 octobre de cette année, ce qui constitue un élan pour continuer à accroître les visites de coopération entre les deux pays. Au cours de cette visite, il est prévu de signer également le Haut Conseil d'Arabie saoudite et Indonésie, qui sera présidé directement par Son Altesse, le prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite Mohammed bin Salman, ainsi que le Premier ministre d'Arabie Saoudite et également, bien sûr, le président de la République d'Indonésie, M. Joko Widodo. On espère que ce Haut Conseil ouvrira pas seulement de nouveaux horizons pour les relations de coopération entre les deux pays, mais donnera également une impulsion pour améliorer les relations dans une direction plus stratégique, tant dans les domaines de la politique, de l'investissement, de l'énergie, du tourisme et de l'économie, prévues par ces deux pays amis. L'ambassadeur Faisal a expliqué que la formation du Haut Conseil d'Arabie Saoudite et d'Indonésie était une mesure concrète tirée des bonnes relations qui existaient entre les deux pays pour discuter et répondre à divers problèmes stratégiques pour les progrès des deux pays. Le gouvernement a accepté de collaborer avec la Banque japonaise pour la coopération internationale JBIC, pour développer de nouvelles sources d'énergie renouvelable EBT. Le ministre coordonnateur des affaires économiques Erlang Artanto a déclaré que lors de la réunion, diverses activités proposées pour le programme de coopération entre l'Indonésie et le Japon en matière de transition énergétique avaient été discutées, notamment dans le cadre du suivi de la formation d'un groupe de travail pour la transition énergétique et infrastructurelle. C'est ce qu'a déclaré mardi le ministre Erlang dans un communiqué officiel de Jakarta. L'Indonésie et le Japon ont convenu de créer ce groupe de travail qui constituera un forum de collaboration entre les parties prenantes indonésiennes et japonaises pour accélérer le développement de la transition énergétique et de ses infrastructures de soutien. Le ministre coordonnateur Erlang et le gouverneur de la JBIC, Hayashi Nobumitsu, se sont également mis d'accord sur un certain nombre de domaines de coopération qui pourraient être immédiatement mis en œuvre au sein du groupe de travail. Les domaines de coopération comprennent la coopération dans la transition du centre électrique à vapeur PLTU sur l'île de Java pour remplacer les centrales hydroélectriques PLTA sur l'île de Kalimantan et son transport, l'augmentation de l'efficacité des centrales géothermiques, les sources d'énergie à base d'ammoniac vert et bleu. Et concernant le captage, l'utilisation et le stockage du carbone CCUS. Le gouvernement a accéléré la mise en œuvre des activités du groupe de travail et a chargé une équipe d'experts composée de responsables du ministère de coordination de l'économie, des ministères, des institutions concernées, des entreprises d'État et du secteur privé de formuler immédiatement les activités qui seraient proposées pour la coopération avec le Japon à travers le JBIC. L'athlète de Wushu, Tao Lu, Aris Horaitius, a remporté mardi 26 septembre 2023 la troisième médaille d'or pour l'Indonésie aux Jeux asiatiques de Hangzhou dans les épreuves masculines de Nangang et Nangung avec un score total de 19 506. Cet exploit était sa première médaille au niveau des Jeux asiatiques. Auparavant, Harris a remporté le numéro 8 lien aux Jeux asiatiques de Philippines 2019 et a remporté l'or dans le numéro combiné du concours multiple Nangang et Nangung aux Jeux asiatiques de Singapour 2015. Dans le numéro Nangang, Harris a été trois fois finaliste aux Jeux asiatiques 2023 au Cambodge et aux Philippines 2021. Le ministre indonésien de coordination des affaires économiques, Erlangga Hartarto, a déclaré que l'économie verte pourrait devenir une nouvelle source de croissance économique durable en Indonésie. Le ministre Erlangga a déclaré cela lors de son discours d'ouverture virtuelle lors de l'action Kata Data Sustainability Action for the Future Economy, SAFE, 2023 à Jakarta mardi. Il a expliqué que ces bons fondamentaux sont essentiels pour que l'Indonésie encourage une économie verte comme nouvelle source de croissance économique durable à l'avenir. Il a expliqué que l'Indonésie avait augmenté son engagement de contribution déterminée au niveau national, NDC, aux objectifs de réduction des émissions de 29% à 31,89% grâce à ses propres efforts et de 41% à 43,20% avec l'aide internationale en 2030. La NDC améliorée est alignée sur le long terme. Stratégie à faibles émissions de carbone et résilience climatique 2050, ainsi qu'une vision visant à atteindre zéro émission nette en 2060. L'Indonésie a également publié une politique de tarification du carbone par le biais du commerce du carbone et des taxes sur le carbone par le biais du règlement présidentiel numéro 98 de 2021 concernant la valeur économique du carbone. Ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République d'Indonésie a déclaré que la transformation du système éducatif à travers l'Education Report Card pourra encourager une répartition équitable de la qualité de l'éducation en Indonésie. Le chef de l'Agence des normes éducatives, des programmes et de l'évaluation BSKAP du ministère de l'Éducation et de la Culture, Anindito Aditomo, a déclaré que grâce au bulletin scolaire, les données éducatives de chaque unité et région sont accessibles à toutes les parties prenantes. Dans une déclaration à Jakarta mardi, a-t-il déclaré, Education Report Card est une plateforme qui intègre diverses données éducatives, en particulier les données d'évaluation nationale, afin qu'elles deviennent un outil de mesure qui présente l'état de l'éducation indonésienne pour encourager la réflexion et l'amélioration de la qualité de l'éducation. L'évaluation nationale photographie la qualité. Le processus et l'environnement d'apprentissage comme reflet de l'état de la qualité des services éducatifs, ainsi que mesurer des instruments clés tels que l'évaluation des compétences minimales AKM. L'enquête sur l'environnement d'apprentissage, Suling Jar, et l'enquête sur le caractère pour l'enseignement primaire et secondaire. Le ministre indonésien des Travaux publics et du Logement, PUPR, Basuki Hadimojono, a proposé aux investisseurs chinois un projet de développement d'infrastructures dans la capitale IKN, Nusantara, du Kalimantan oriental. Dans sa déclaration, Jakarta mardi, Basuki a expliqué que son parti proposait aux investisseurs de la République populaire de Chine de discuter des opportunités de coopération en matière d'investissement dans le cadre du programme de coopération gouvernementale avec les entités commerciales, KPBU, dans le développement des infrastructures de l'IKN indonésien. Selon Basuki Hadimojono, le programme de financement du développement de l'IKN de la PBN ne couvre qu'environ 20% des besoins totaux d'investissement de l'IKN. Pendant ce temps, pour le reste, le gouvernement indonésien ouvre la possibilité aux investisseurs locaux et étrangers de participer au développement d'IKN à travers le programme PPP. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui, intitulée « Investissement vert dans le secteur du tourisme pour la prospérité » avec moi, Audrey. Chers auditeurs, aujourd'hui, le 27 septembre, est célébrée la Journée mondiale du tourisme depuis 1980. L'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies, OMT, célèbre la Journée mondiale du tourisme en tant que commémoration internationale tous les 27 septembre, faisant référence à la date d'adoption du statut de l'OMT en 1970. L'adoption de ce statut est considérée comme une étape historique dans le tourisme mondial. Le thème de la célébration de la Journée mondiale du tourisme de cette année et le tourisme et les investissements verts, citant le site web officiel que l'OMT se concentre cette année sur l'investissement pour les personnes, la planète et la prospérité. Investissement pour la société sous forme d'éducation et de compétences. En attendant pour la planète ou la Terre, cela se réalise en investissant dans des infrastructures durables et en accélérant la transformation verte. Pour la prospérité, investissez dans l'innovation, la technologie et l'entrepreneuriat. Le tourisme est un secteur important pour l'Indonésie. La beauté naturelle, le patrimoine culturel et artistique unique et la gentillesse des gens sont des attractions touristiques en Indonésie. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative vise à ce que les recettes en devises du secteur touristique atteignent entre 2,07 et 5,95 milliards de dollars américains en 2023, avec un objectif de 8,5 millions de visites touristiques étrangères. Le gouvernement indonésien vise des investissements dans le secteur du tourisme à hauteur de 8 milliards de dollars américains, ce qui créera de nouveaux emplois pour 4,4 millions de personnes. L'investissement dans la société, la terre et la prospérité est également au centre du développement du tourisme et des investissements en Indonésie. Le ministère du tourisme et de l'économie créative encourage les villages à développer leurs ressources pour devenir les destinations touristiques. Ce programme apportera pas seulement des bénéfices directs aux communautés villageoises pour développer le potentiel du village, mais maintiendra également en même temps la durabilité environnementale et le bien-être des communautés locales et environnantes. Le gouvernement indonésien se concentre également sur le développement de 5 destinations touristiques super prioritaires, à savoir Borobudur, Likupang, Mandalika, le lac Toba et Labuan Bajo. Cet effort implique divers ministères concernés pour mener à bien le développement des installations et des infrastructures de transport dans 5 destinations touristiques super prioritaires. L'implication de toutes les parties est la clé du développement réussi de l'industrie du tourisme en Indonésie, avec des riches naturelles, des ressources humaines et des réglementations qui facilitent l'investissement en Indonésie, notamment dans une industrie touristique durable. Les objectifs fixés par le gouvernement indonésien dans le secteur du tourisme peuvent bien sûr être atteints. Tout le monde doit bouger pour le progrès du tourisme. Comme l'a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, investir dans le tourisme durable signifie investir dans un avenir meilleur pour tous. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le commentaire.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 27 septembre 1945, la journée des services des postes et télécommunications. La journée des services postaux et des télécommunications a commencé avec la reprise du service postal télégraphique et téléphonique ou PTT de l'autorité du gouvernement japonais par des jeunes indonésiens membres de la force de jeunesse des postes télégraphiques et téléphoniques à Bandung, Java Occidental, le 27 septembre 1945. La force de jeunesse des postes télégraphiques et téléphoniques dirigée par Sutoko a décidé de s'emparer du bureau des PTT. L'événement de prise de pouvoir du 27 septembre 1945 est toujours commémoré comme la journée des services des postes et télécommunications. Passons à l'événement du 27 septembre 1980, la journée mondiale du tourisme. Depuis 1980, l'Organisation mondiale du tourisme célèbre la Journée mondiale du tourisme chaque 27 septembre. Cette date était choisie car le 27 septembre 1970, les statuts de l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, ont été rédigés. La rédaction des statuts est considérée comme une référence pour le tourisme mondial. En dehors de cela, la détermination de la date de la Journée mondiale du tourisme repose également sur des faits uniques. Le 27 septembre marque la fin des vacances dans l'hémisphère nord lorsqu'on se prépare à entrer dans l'hiver. Cependant, dans l'hémisphère sud, le 27 septembre marque le début de la période des fêtes car il accueille l'été. C'est la date à laquelle les voyageurs du monde entier sont assurés de passer des vacances ensemble. L'objectif de la célébration de la Journée mondiale du tourisme est de sensibiliser la communauté internationale au rôle du tourisme et de montrer l'impact du tourisme sur les valeurs sociales, culturelles, politiques et économiques mondiales. Nous Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 27 septembre 1988. Le Parti de la Ligue nationale pour la démocratie a été fondé au Myanmar. La Ligue nationale pour la démocratie, ou NLD, a été fondée au Myanmar le 27 septembre 1988 et était dirigée par la militante pour la démocratie Aung San Suu Kyi, qui faisait office de secrétaire général. Aux élections générales de 1990, ce parti a remporté 392 des 492 sièges disponibles, mais la junte militaire au pouvoir ne lui a pas permis de former un gouvernement. En 2010, le parti NLD a été déclaré illégal et a dû être dissous. Cependant, un an plus tard, la NLD a été autorisée à redevenir active et à participer aux élections générales de 2012 et 2015. C'est le retard, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Tiba, cinta datang kepadaku. Saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Ku harap dia rasakan yang sama.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Sejuritak bonsoir, voici mon Indonésie et pour le titre, le gouvernement invite les entreprises technologiques mondiales à vendre et à ouvrir des bureaux en Indonésie. Le gouvernement indonésien continue d'inviter les entreprises technologiques à venir et à innover au niveau national en vendant et en ayant des bureaux en Indonésie. C'est ce qu'a déclaré le ministre coordonnateur des affaires économiques de la République d'Indonésie, Airlangga Hartarto, lorsqu'il représentait le président Joko Widodo en tant que conférencier principal à la Journée des Noix de l'Indonésie 2023 à Jakarta, mardi 26 septembre. Le ministre Airlangga a déclaré qu'au cours des deux dernières décennies, l'économie numérique d'Indonésie a doublé et est actuellement la plus importante de la région de l'ASEAN. Cela marque le développement du progrès de la technologie numérique dans la société, dont la valeur est estimée à 133 milliards de dollars américains en 2025. Le ministre Airlangga a ajouté qu'avec un potentiel de marché aussi important, le siège régional de l'entreprise de technologie numérique devrait être construit en Indonésie et n'est pas dans un autre pays. Concernant les progrès de la technologie numérique, le ministre Airlangga a également déclaré dans son discours d'ouverture que l'Indonésie continue d'encourager l'engagement et les efforts des entreprises technologiques mondiales pour aider à soutenir la voie de l'économie numérique indonésienne, afin qu'elle puisse devenir un acteur majeur du secteur économique supérieur du numérique. L'Indonésie s'ouvre également à l'investissement afin d'accroître sa compétitivité, d'encourager la croissance économique et d'ouvrir les opportunités d'emploi nécessaires à l'avenir, telles que chercheurs en IA, analystes de mégadonnées, ingénieurs réseau 5G et spécialistes de la cybersécurité. Les entreprises technologiques qui investissent devraient également pouvoir ouvrir des centres de recherche, former et améliorer les ressources humaines dans le secteur numérique, accroître l'autonomisation des micro, petites et moyennes entreprises, MPME locales, fournir un accès équitable à la technologie et soutenir le programme de transformation numérique promu par le gouvernement. À cette occasion, le ministre coordonnateur Airlangga a également exprimé l'appréciation du président Joko Widodo pour Amazon Web Services qui s'est développé rapidement en Indonésie en lançant le centre de données régional AWS Asie-Pacifique à Jakarta, qui est le deuxième plus grand centre de données d'Asie du Sud-Est après Singapour. Le développement de l'infrastructure technologique, notamment le cloud computing, également réalisé par AWS, est considéré comme capable d'accélérer le progrès de l'économie numérique, de favoriser la naissance de davantage de nouvelles entreprises, d'encourager l'innovation et le développement technologique et d'attirer davantage de financement pour y entrer aux entreprises en démarrage. Le ministre Airlangga Hartarto a également souligné qu'il était nécessaire de renforcer la collaboration et la synergie entre le gouvernement en tant que régulateur, les entreprises fournisseurs de technologies et les innovateurs afin que le développement de l'économie numérique et de l'intelligence artificielle puisse apporter une valeur ajoutée optimale à la société indonésienne. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Sudah di kepala dua, harus mulai dari mana? Ambisiku berkecolak, antusias tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-lika ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas meski sering tercekat. Meski aku tak merasa bebas.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers auditeurs, si vous recherchez un lieu de vacances différent, vous pouvez peut-être venir à Temanggung dans le centre de Java. Temanggung est situé dans une zone montagneuse et possède un sol fertile, précisément sur les pentes du Mont Sumbing. Parce qu'elle possède des terres fertiles, l'agriculture et la culture sont des activités quotidiennes de la population et les produits agricoles deviennent le principal revenu des habitants de Temanggung pour répondre à leurs besoins quotidiens. L'un des principaux produits agricoles de Temanggung est le tabac. Le tabac est une plante qui peut pousser en abondance dans cette région et constitue l'un des tabacs de la meilleure qualité d'Indonésie. C'est pourquoi Temanggung est appelée la ville du tabac. Les feuilles de tabac récoltées et transformées par les agriculteurs sont non seulement vendues librement, mais servent également à approvisionner en matière première l'une des plus grandes usines de tabac d'Indonésie. Certains agriculteurs fermentent également leur meilleur tabac pour en faire le tabac le plus cher au monde, appelé Srintil. Temanggung ne propose pas seulement un tourisme éducatif sur le tabac, car Temanggung possède également plusieurs très belles destinations touristiques naturelles. Certains endroits que vous pouvez visiter à Temanggung incluent le parc touristique de Posong, Kledung Embung et Sigandul View. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec comme titre Temanggung à Java Centre. Demain, nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
sadari akulah yang kau sakiti. Kau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Oh Tuhan, tolong aku, hapuskan rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute! Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. C'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Berapa lama? Berapa lama? Pour combien de temps? Bonne écoute. Chers auditeurs, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Berapa lama? Berapa lama? Pour combien de temps? Cette conversation se déroule entre Chris, un vlogueur australien, et une guide du musée de la conférence asiatique africaine. Chris a répondu à l'explication de la guide sur le calendrier de la conférence Asie-Afrique. Bonne écoute!
Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan konferensi Asia-Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui intitulées « Berapa lama ?» Berapa lama? Pour combien de temps? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Combien de temps a eu lieu la conférence? Berapa lama? Berapa lama? Combien de temps? Konferensi itu, cette conférence, diselenggarakan. Diselenggarakan a eu lieu. Conférence Asia-Afrique. Conférence Asia-Afrique. Conférence Asia-Afrique. Dihadiri. Dihadiri. Assister. Pemimpin. Pemimpin. Dirigeant. 29 negara. 29 negara. 29 pays. Selama 7 hari. Selama 7 hari. Pour ou pendant 7 jours. Tanggal 18 hingga 24 April. Tanggal 18 hingga 24 April. Du 18 au 24 avril. Chers amis, dans une conversation, vous avez entendu la phrase Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Combien de temps a eu lieu la conférence? Dans cet énoncé, il y a une expression interrogative Berapa lama? Berapa lama? Combien de temps? Qui est utilisée pour demander le délai de tenue de la conférence. Pour demander un intervalle de temps, vous pouvez utiliser l'expression interrogative Berapa lama? Berapa lama? Combien de temps? Suivi d'une activité telle que Konferensi itu diselenggarakan. konferensi itu diselenggarakan. La conférence a lieu. Chers amis, allez, maintenant écoutons un autre exemple d'utilisation de l'expression de question berapa lama. Berapa lama, combien de temps? Pour demander un intervalle de temps. Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Combien de temps vas-tu rester ici? Berapa lama perjalanan dari Bandung ke Jakarta? Berapa lama perjalanan dari Bandung ke Jakarta? Combien de temps faut-il pour voyager de Bandung à Jakarta? Chers amis, la conférence Asie-Afrique de 1955 a été suivie par la tenue du sommet Asie-Afrique. Le sommet Asie-Afrique s'est tenu en 2005 à Jakarta et à Bandung, Java occidentale, pour coïncider avec le 50e anniversaire de la conférence Asie-Afrique. Parallèlement, le sommet Asie-Afrique 2015 s'est tenu à Jakarta et Bandung, pour coïncider avec le 60e anniversaire de la conférence Asie-Afrique. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien, pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan konferensi Asia-Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. Chers amis, c'était la 4e chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Manado, Sulawesi du Nord, intitulée Polo Pakita. La chanson Polo Pakita a été composée par Willem P. et Mwan Ha. La chanson Polo Pakita part d'un couple d'amoureux qui doivent être séparés par une longue distance pendant un certain temps. Au moment de se séparer, un homme est demandé par l'amant de rester et d'être fidèle à leur relation, car cette séparation n'a pas pour but de mettre fin à la relation. Bon, chers auditeurs, voici une chanson de Manado, Sulawesi du Nord, intitulée Polo Pakita, chantée par le groupe de musique Apata. Bonne écoute!
Detik terakhir ketong dua baku sayang sadikilai ketong dua mo baku bisa oh, oh, oh. Cuma beta kasih jangan sampai ale pergi deng lain
tunggu beta mau pulang. jangan sampai ale pigi deng lae. Tunggu beta mau pulang, mau datang ambil.
Kalau beta nolak, beta sayang, cium beta.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.